Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1948, de retour à Berlin après son exil californien, Bertolt Brecht, désireux de faire comprendre la nature de son travail, rédige les 77 propositions qui composent son petit organon sur le théâtre. Il le complète 6 ans plus tard par un additif dans lequel on peut lire cet aphorisme « Tous les arts contribuent au plus grand de tous, l'art de vivre ». En septembre 2013, invité par Marie Richeux à déballer quelques ouvrages de sa bibliothèque pour l'émission « Pas la peine de crier », la comédienne Anne-Lise Heimburger lisait plusieurs extraits du Petit Organon dans une traduction de Jean Tailleur. Elle expliquait ensuite son amour pour ce texte et la façon dont il accompagnait, très concrètement, son parcours de comédienne. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 septembre 2013.
3. Depuis toujours, l'affaire du théâtre, comme d'ailleurs de tous les autres arts, est de divertir les gens. Cette affaire lui confère toujours sa dignité particulière. Il n'a besoin d'aucune autre justification que l'amusement, mais de celui-ci absolument. En aucune façon, on ne pourrait le hisser à un niveau plus élevé si on en faisait, par exemple, une foire à la morale. Il lui faudrait alors plutôt veiller à ne pas être précisément abaissé, ce qui se produirait aussitôt s'il ne rendait réjouissant l'élément moral, et à vrai dire réjouissant pour les sens, ce qui ne peut d'ailleurs que profiter à l'élément moral. Même d'enseigner, on ne devrait pas le lui demander. En tout cas, rien de plus utile que la manière d'éprouver la jouissance de se mouvoir, sur le plan physique ou intellectuel. Le théâtre doit en effet pouvoir rester quelque chose de tout à fait superflu, ce qui signifie alors, il est vrai, que l'on vit effectivement pour le superflu. Rien n'a moins besoin de défenseurs que les réjouissances. 5. Même lorsqu'on parle d'un genre élevé et d'un genre bas de réjouissance, l'art vous oppose un visage de glace, car il souhaite se mouvoir à un niveau élevé et à un niveau bas, et être laissé en paix si, de la sorte, il réjouit les gens. 6. En revanche, il existe des réjouissances faibles, simples, et fortes, complexes, que le théâtre peut procurer. Ces dernières, les réjouissances complexes, auxquelles nous avons affaire dans les grandes œuvres dramatiques, atteignent leur intensification comme l'acte sexuel, par exemple, l'atteint dans l'amour. Elles sont plus ramifiées, plus riches en médiation, plus contradictoires et plus riches de conséquences. 7. Et les réjouissances des différentes époques étaient naturellement différentes, selon la manière dont précisément les hommes y vivaient en commun. Le démos du cirque Hélène, sous la domination de tyrans, devait obligatoirement être diverti autrement que la cour féodale du 14e des Louis. Le théâtre devait obligatoirement fournir d'autres reproductions de la vie en commun des hommes, non seulement des reproductions d'une autre vie en commun, mais aussi des reproductions d'une autre sorte. 37. Si nos personnages sur la scène sont mus par des moteurs sociaux, et par des moteurs différents, selon les époques. Nous faisons qu'il est alors plus difficile à notre spectateur de s'identifier. Il ne peut pas tout simplement sentir « moi aussi, j'agirai ainsi ». Tout au plus peut-il dire « si j'avais vécu dans de telles circonstances ». Et si nous jouons des pièces tirées de notre propre temps comme des pièces historiques, il se peut que les circonstances dans lesquelles il agit lui apparaissent également particulières. Et c'est là le commencement de la critique. 44. Ce qui est resté longtemps inchangé paraît en effet inchangeable. Partout, nous rencontrons des choses qui se comprennent trop bien toutes seules pour que nous soyons obligés de prendre la peine de les comprendre. Ce dont ils font l'expérience ensemble paraît être aux hommes l'expérience donnée de l'humanité. L'enfant vivant dans le monde des vieillards apprend comment les choses s'y passent. Tel est précisément le cours des choses, qu'elles lui deviennent courantes. Quelqu'un est-il assez hardi pour désirer quelque chose de plus? Il ne le désirerait qu'à titre d'exception. Même s'il reconnaissait ce que la Providence fait peser sur lui pour ce que la société a prévu pour lui, la société, ce puissant rassemblement d'êtres pareils à lui, devrait nécessairement, tel un tout qui est plus grand que la somme de ses parties, lui paraître absolument non influençable. Et pourtant, ce non influençable lui serait familier. Et qui se méfie de ce qui lui est familier ? Pour que toutes ces choses données puissent lui apparaître comme autant de choses douteuses, il lui faudrait développer ce regard étranger avec lequel le grand Galilée observa un lustre qui s'était mis à osciller. Lui, ses oscillations l'étonnèrent, comme s'il ne se les était pas imaginées ainsi et ne pouvait se les expliquer, ce qui lui fit comprendre leur loi. C'est ce regard, aussi difficile que productif, que le théâtre doit provoquer par ses reproductions de la vie en commun des hommes. Il doit amener son public à s'étonner, et cela se fait à l'aide d'une technique de distanciation du familier. 54. L'observation est une partie essentielle de l'art dramatique. Le comédien observe autrui de tous ses muscles et de tous ses nerfs par un acte d'imitation qui est en même temps un processus de réflexion. Car une simple imitation redonnerait au mieux ce qui a été observé. Et ce n'est pas assez, car l'original exprime ce qu'il exprime à voix trop basse. Pour passer du simulacre à la reproduction, le comédien regarde les gens comme s'il lui donnait à voir ce qu'ils font. Bref, comme s'il lui recommandait de méditer ce qu'ils font.
Annie Zeinburger, vous lisez des petits extraits du Petit Organon pour le théâtre. Est-ce que ce sont des notes qui sont annotées? On a l'impression qu'on voit des crayonnages.
Il y a différentes couches de notes. En fait, j'avais ça au programme de terminale en classe théâtre au lycée des Pontonniers à Strasbourg. Donc, j'avais bien étudié l'œuvre. Et comme à mon habitude à l'époque, ça s'est un petit peu calmé avec le temps, je considérais que tout était important, donc tout est souligné. Voilà. Et après, bon, j'ai appris à avoir une sorte de regard un peu plus sélectif. Il y a des choses qu'il faut faire émerger. Donc il y a plusieurs couches. C'est vrai que c'est le texte d'origine, donc il est un peu raturé dans tous les sens. Et au fil du temps, c'est telle ou telle note qui arrête mon attention.
Quand vous dites plusieurs couches, quelle est la couche qui a suivi la terminale littéraire ?
Oh, franchement, j'y reviens de manière assez régulière. Il n'y a pas une année sans que je replonge dans Brecht. Ben, c'est vrai que peut-être une des couches les plus récentes, ça a été quand j'ai joué dans la jungle des villes au Théâtre de la Colline l'été dernier, le printemps 2012. Voilà, ça a été l'occasion effectivement de relire un peu ces notes qui, au fil du Petit Organon, sont pas de plus en plus précises, mais enfin, il s'intéresse à une dimension théâtrale de manière extrêmement concrète. Hein. C'est vraiment de la théorie.
Ça nourrit concrètement votre jeu et votre travail d'actrice.
Ah ouais, absolument, absolument. Puis en plus, le fait est que j'ai un parcours. Alors, je ne sais pas si c'est aussi le fait que je sois alsacienne, très certainement, puisque je l'ai dit, mais la proximité avec l'Allemagne, j'ai quand même été nourrie surtout au théâtre allemand quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à aller au théâtre. Les premières pièces qui m'ont marquée, c'était des pièces venues d'Allemagne, des mises en scène en tout cas venues d'Allemagne. Donc, je crois que Brecht, c'est quand même d'une influence fondamentale pour ces metteurs en scène-là. Je pense à Castorf, je pense à Rainer Müller, même dont j'ai vu le Arthur Oui, qui est repassé encore récemment au Théâtre de la Ville, parce que ça fait des années qu'il le joue maintenant. Ça reste toujours formidable à voir, d'ailleurs. Même, enfin, c'est pas la même tradition, Martha Lehr, mais enfin, bon, voilà. Il est vrai que tous les metteurs en scène, et puis, bien sûr, Matthias Langhoff, avec qui j'ai la chance de travailler à plusieurs reprises, et qui a aussi le don de me faire connaître Brecht, d'une manière d'ailleurs beaucoup plus personnelle, parce qu'il l'a fréquenté. Donc.
Quelle musique on met après Brecht ?
Hans Eisler, voilà le compositeur, camarade de Brecht. On va écouter son Kinderhymn sur des paroles de Brecht d'ailleurs, et chanté par Hans Eisler lui-même.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Uns wie anderen Völkern hin und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
C'était « Je déballe ma bibliothèque ». Annelise Heimburger lisait des extraits du Petit Organon sur le théâtre de Brecht, une séquence proposée par Marie Richeux, réalisée par Anne-Laure Chanel et diffusée pour la première fois sur France Culture dans Pas la peine de crier le 10 septembre 2013. Réécoute et téléchargement à la page des nuits sur le site franceculture.fr.